la dernière heure de RFI Matin. Il est 9h à Paris, 7h en temps universel.
Andréane Mélard.
Et Julien Coquelrohem pour le journal.
Et à la une, la première visite en Syrie d'un dirigeant européen depuis la chute de Bachar al-Assad. Emmanuel Macron attendu à Damas aujourd'hui. On retrouve notre envoyé spécial sur place dans un instant. Au moins 10 morts à Kiev dans des frappes de missiles russes. Plus de 500 drones ukrainiens interceptés par Moscou cette nuit. La guerre en Ukraine continue. Et RFI vous fait entendre ce matin un témoignage exceptionnel. Les messages vocaux d'un soldat russe avant sa mort sur le front ukrainien. Dans ce journal aussi, le Venezuela qui compte ses morts et perd espoir de retrouver des survivants bientôt 2 semaines après le double séisme qui l'a frappé. Et puis les Mexicains déçus mais pas abattus. La fête dans les rues de Mexico cette nuit malgré la défaite contre l'Angleterre en 8e de finale de la Coupe du Monde de football.
C'est une visite dont les détails seront tenus secrets jusqu'au dernier moment.
Pour des raisons de sécurité, mais Emmanuel Macron est bien attendu aujourd'hui à Damas pour une visite historique. C'est la première fois qu'un chef d'État européen se rend en Syrie depuis la chute du régime de Bachar al-Assad en décembre 2024. Bonjour Sophie Guignon.
Bonjour.
Envoyé spécial de RFI à Damas. Que sait-on pour l'instant de ce voyage du président français ?
Alors, les autorités syriennes ont annoncé ce dimanche qu'Emmanuel Macron devait se rendre à Damas accompagné d'une délégation d'investisseurs et de représentants d'entreprises françaises pour, je cite, renforcer la coopération économique. Alors, si cela est confirmé par l'Elysée dans les heures qui viennent, cette visite aura une dimension importante dans un contexte où la Syrie a urgemment besoin de se reconstruire. D'après la Banque mondiale, il faudra plus de 200 milliards d'euros pour reconstruire le pays meurtri par plus de 13 années de guerre. Et avec cette visite, la première d'un chef d'État européen depuis la chute du régime Assad, la France pourrait se positionner comme un interlocuteur de premier plan. En mai 2025, Paris avait été d'ailleurs la première capitale européenne à accueillir l'ancien djihadiste repenti, devenu depuis président par intérim, Ahmad Achara. La Syrie, qui a su se tenir à l'écart de la guerre régionale entre les États-Unis, Israël et l'Iran, est toujours instable. Il y a quelques jours à Damas, un attentat a fait 9 morts et 20 blessés dans un café. La menace de l'organisation de l'État islamique plane toujours et plusieurs dizaines de djihadistes français et leurs familles sont encore en Syrie.
Sophie Guignon à Damas, merci beaucoup. Vous suivez sur place cette visite attendue donc d'Emmanuel Macron dans la région. L'actualité, c'est aussi le 3e jour des obsèques nationales d'Ali Khamenei, tué au mois de février par les premières frappes israélo-américaines sur l'Iran. Le cercueil de l'ancien guide suprême iranien traverse actuellement Téhéran pour un cortège qui va durer plus de 10 heures.
À la une également, une nouvelle nuit de frappes de missiles sur Kiev.
Au moins 10 morts dans la région de la capitale, alors que de son côté, la Russie annonce avoir abattu plus de 500 drones ukrainiens dans la nuit. Des attaques aériennes qui continuent des deux côtés, mais la situation toujours bloquée sur le terrain. Le front bouge peu au sol, mais l'intensité des combats n'a pas décliné. La semaine dernière encore, les estimations des pertes humaines dans l'armée russe atteignaient environ 450 000 morts, même si la loi russe interdit de communiquer sur les chiffres non officiels.
Et ce matin, RFI vous fait entendre un témoignage très rare.
Celui, justement, d'un soldat russe tué au front de son entrée dans l'armée jusqu'à ses derniers mots avant sa mort. Des messages vocaux envoyés à ses proches retracent son parcours. Et notre correspondante Anissa El-Jabri a pu les écouter.
Appelons-le Strogoff. 40 ans, au cadre dans la finance, personne ne l'a jamais perçu comme légitimiste ou militariste. Il a même participé en 2011 aux vastes manifestations de protestation contre la reconduction au pouvoir de Vladimir Poutine. Son message de novembre 2024 est donc un choc pour tous ceux qui le connaissent. Il a signé pour se battre en Ukraine. Il était alors en prison depuis plusieurs mois.
J'ai pris cette décision seul. Là où j'étais, tout semblait absolument terrible et plus possible à supporter. À ce moment-là, pour moi, mieux valait une fin mauvaise et terrible plutôt qu'une horreur sans fin.
Peut-être parce qu'il sait que ces messages peuvent être interceptés n'importe quand. Strogoff ne dit rien de ce qui a pu se passer derrière les barreaux. Avec l'OTAN, sa famille comprend qu'il était en détention pour délit financier, avec des dettes qu'une vie entière ne suffirait pas à rembourser. Pendant presque 2 ans, Strogoff est déplacé entre Lugansk et Belgorod, dans une unité de prisonniers à l'arrière des dronistes. Fin avril, c'est l'envoi dans une unité d'assaut. Il sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps.
Je suis devenu plus pacifiste qu'avant. Occident. Ici, on ne peut pas se demander quels sont les véritables objectifs de l'opération spéciale et s'ils existent même vraiment. Et ça, c'est sans parler du coût humain, dénué de sens. Pour quelques kilomètres carrés d'avance, pour ces minuscules agglomérations, on ne sait même pas pour qui et pourquoi on meurt.
Strogoff est aussi très pessimiste sur l'issue et les conséquences de la guerre.
Ce conflit se terminera par une crise monstrueuse, phénoménale, terrible en Russie. Je suis absolument convaincu que nous avons franchi le point de non-retour. Toutes les autres options possibles ont été écartées. Et quel que soit le successeur de Poutine, ce sera terrible. Soit ce sera un despote encore plus terrible, soit ce sera simplement une dictature militaire résultant d'un putsch.
Strogoff a cessé de lire ses messages. Début mai, il a été tué dans l'explosion d'un drone Baba Yaga au bout de 10 jours dans ce bataillon d'assaut. C'est ce qu'un soldat a dit à ses proches. Sa famille a été avertie qu'il faudra des mois, peut-être un an, pour établir officiellement les conditions de sa mort.
Anis El-Jabri, et le dernier chiffre officiel donné par la Russie sur ses pertes humaines en Ukraine remonte à septembre 2022. Il faisait état de 5937 soldats tués. Ce témoignage exceptionnel à retrouver sur RFI.fr.
La Russie qui entame aujourd'hui des exercices navals annuels avec la marine chinoise et la Chine, Julien, qui suscite l'inquiétude dans la région.
Pékin a effectué ce matin un tir d'essai de missiles à capacité nucléaire, mais sans charge, vers les eaux internationales du Pacifique. Exercice militaire de routine, selon la marine chinoise, alors que les pays de la région font part de leurs préoccupations. Le Japon dit avoir vivement exhorté la Chine à réexaminer ce tir. La Nouvelle-Zélande se dit profondément inquiète.
Au Venezuela, le bilan du double séisme du 24 juin continue de s'alourdir.
3342 morts et plus de 16 000 blessés selon les derniers chiffres officiels. Le nombre de disparus oscille entre 10 000 selon certaines projections et 50 000 selon les Nations Unies. Bientôt deux semaines après la catastrophe, l'espoir de retrouver des survivants est désormais infime. Et sur place, le moral de centaines de bénévoles, secouristes et proches est au plus bas. Reportage de Mélissa Barra et Jadel Koury.
Les corbillards se relaient devant la morgue improvisée de la Guaira. Edgardo, 20 ans, attend sur sa moto. Il est venu pour identifier le corps de son cousin. Ce sera son dernier voyage entre Caracas et la zone du sinistre.
Nous attendons la confirmation qu'il est bien là pour pouvoir l'incinérer. Depuis le 24 juin, nous faisons des allers-retours sans arrêt.
Son cousin, il l'a cherché pendant des jours, mais il a aussi aidé d'autres familles.
Nous avons prêté main forte et nous avons même aidé une dame à sortir son fils. Maintenant, c'est plus calme et les images douloureuses tournent en boucle dans ma tête. Au début, on tenait grâce à l'adrénaline, mais là, le coup est dur.
À 15 minutes de là, les rescapés de Katia Lamar campent sur un parking. Une équipe de l'ONG israélienne IsraAid distribue des repas sous les tentes. La psychologue Karen Munson en fait partie.
Ce que je constate chez les secouristes et les bénévoles, c'est qu'ils s'en veulent de ne pas en avoir fait assez. Ils travaillent sans relâche. Beaucoup n'ont sorti que des corps sans vie. Ils ont le cœur lourd. Notre rôle est de leur donner des clés pour se protéger, recharger leur batterie et pouvoir continuer. Les équipes de sauvetage étrangères quittent peu à peu le Venezuela. Seul le personnel humanitaire restera sur place pour venir en aide aux rescapés. Mélissa Barra, Jadel Koury, La Guaira, RFI.
Et La Guaira, zone la plus détruite au Venezuela, où plus de 150 corps non identifiés ont été inhumés hier dans un cimetière.
C'est un coup dur pour l'économie du Cameroun.
Le pays n'a désormais plus d'installation pour liquéfier son gaz naturel. Le bateau-usine de l'armateur norvégien Golar LGN quitte les eaux camerounaises en ce mois de juillet, après 8 ans d'exploitation au large de Kribi. Un tournant pour le secteur des hydrocarbures qui dépendait entièrement de ce bateau pour produire et exporter son GNL, avec de lourdes conséquences à la clé pour les finances du pays. Amélie Tulet.
Golar s'en va et il n'y a aucune solution de rechange en vue. L'entreprise a trouvé plus intéressant de rediriger son navire vers l'Amérique latine avec son personnel et son expertise. Un navire qui à lui seul s'occupait ces 8 dernières années d'extraire, liquéfier et charger sur des méthaniers le gaz camerounais. Un départ annoncé qui aurait dû être mieux anticipé selon le consultant Robert Moutet Ambassa.
J'ai même eu à faire des notes dans ce sens. Attention, Golar va partir, il faut trouver des compensations. Sinon, l'État va perdre tous les revenus qui venaient de la liquidation de gaz. Évidemment, il y en a qui perdent.
l'écoute de...
Participatif, le mix des cultures.
Ah tiens Bill, on va passer un super disque. Alors tu mets le disque. Mets le disque, tu mets juste le bras du pick-up sur le truc en cire et tout.
Non, pas que c'était mieux dans le temps, seulement tout ce qui se fait, je m'en branle. Pas là pour faire du fric, pas plus que réveiller le peuple. Mais ce qu'on était chillique, c'est ma manière d'essayer de buzz. J'essaie pas de te faire rêver, ta vie s'en charge à fond. Je vais pas te faire la leçon, je sais pas ce qu'on est, mais sûrement pas le patron. Entre ceux qui parlent de rien et ceux qui pensent tout dire, ça tourne en rond, ça pense qu'à soif, là les immenses toupies. Je veux pas la gloire, cette pute, fier de squatter le bus. C'est parce que j'ai rien démarré que je peux dire qu'on m'arrête plus paumé. Car même les chrétiens ont une langue de pute. Avoir confiance, je peux plus, franchement ça fait mal aux pieds. Seulement quelques associés sans me priver des belles rencontres. L'inverse en con et je comprends pas cette mode d'être asocial. Puisqu'on se renvoie, l'avenir risque pas d'être glauque de seconde. Respecte-toi avant de te demander si les autres le font. Ça me fout des barres dans le bide, donc je déménage quand je rime. Gratte des pages en speed, c'est pas pour sortir l'argenterie. L'argenterie. La zig pour chasser le démon. Voilà ce qui me pousse à le faire. C'est quand je gratte pour un patron que je pense faire tout de travers. Le goût de l'effort, sauf si j'y vois pas de sens. Des raisons, j'en ai 400, ça justifie mes absences. Pour le son, mes proches, prêt à montrer patte blanche. Si tu fais le fond de mes poches, pour trouver des ronds, c'est mort. Vu que pour si peu, on s'égorge. Fauché, je garde ma dignité, même grave limité. J'essaie de me trouver le bon décor. Gratter, ça me sert à douter, pas me sentir bien pensant. A l'inverse des gammes à jeter, quand j'en ai plein dans le sang. On lève nos verres parce qu'on peut plus garder la tête haute. Faire tomber les escrocs, être en paix sur quelque chose. Ce qu'on kiffait gosse. Maintenant c'est de la merde gros. J'en qui les bosse mec. Je crois plus qu'on peut qu'il les bosse. Je me maintiens. Entreprends quelques petits efforts. Je me laisse encore quelques années pour stopper tise et drogue. Ça passe vite à chaque rite. Je m'avachis, je m'assagis. J'analyse bien chaque crime. Pas pratique non. Pour faire 10 sons par jour, moi je fais la course avec personne. Cherche où commencent les mauvaises questions, où s'arrêtent les bonnes. De parler de ce que je vis avant que la morale ne meure. Quand j'écris je me gratte le cœur, là je découpe des taches de sueur. Pas là pour faire plus de bruit que mes cordes vocales le peuvent. Mes rimes sont là pour me libérer, prendre en otage le seum. De parler de ce que je vis avant que la morale ne meure. Quand j'écris je me gratte le cœur, là je découpe des taches de sueur.
Récemment, en recherchant une station de radio en modulation de fréquence, vous avez peut-être entendu cet indicatif bizarre.
Principe Actif, le mix des cultures.
C'est celui de
Principe Actif. Principe Actif.
À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9.
Bon, vous voulez envoyer un peu de musique, cher ami ?